Et de lecture en musique, aujourd'hui le prix d'Antoinette Richner. Soyez les bienvenus.
Bonjour.
Maintenant, cela fait 6 ans que Entre les Lignes s'associe à cette grande fête de la culture populaire qu'est le Festival de la Cité. Et cela fait 6 ans que ce partenariat prend la forme d'une série de lectures en musique offerte au public chaque soir entre 19h et 20h et diffusée en direct sur les ondes d'Espace 2. Cette année, comme l'année dernière, nous avons investi la place Arlo devant le théâtre Boulimi. C'est là qu'une petite scène provisoire a été installée pour que comédiens, lecteurs et musiciens puissent y dialoguer. Après avoir entendu hier 4 brefs textes de l'auteur genevoise Marina Salzmann, cette deuxième soirée sera celle de la neuchâteloise Antoinette Richner, dont nous entendrons quelques larges passages de son premier roman paru en début d'année chez Buchet-Chastel. Il est intitulé tout simplement « Le prix ». Et c'est le comédien Raoul Teucher qui donnera corps à la prose inventive de l'auteur, accompagné par le piano du musicien Michel Winch. Bonsoir Antoinette Richner.
Bonsoir.
Déjà des applaudissements, c'est dire. Vous faites bien l'attendre. On va tout d'abord rappeler, Antoinette, que ce premier roman est bien nommé puisqu'il découle d'une bourse d'écriture qui vous a été attribuée en 2011. Donc une forme de prix littéraire, la bourse d'écriture. Et depuis sa parution, il vous a déjà valu un prix, le prix Michel Dantan. J'aimerais que vous nous racontiez, pour commencer, dans quelles circonstances vous avez écrit ce livre, vous l'avez rédigé. Circonstances un peu particulières, sur le plan géographique notamment.
Oui, alors l'écriture, elle a démarré dans un cadre effectivement particulier, qui était celui de la maison du phare de l'île Vrac, qui est une petite île ou un site semi-insulaire dans le Nord Finistère. Et vous allez certainement reconnaître une petite composante maritime dans le texte qui va suivre.
Une petite composante, je dirais même importante. Vous filez la métaphore maritime sur la longueur du texte. Ça, on va l'entendre tout à l'heure, c'est une surprise. Alors au centre...
Ça n'est plus...
On l'a légèrement défloré, mais ce n'est pas grave. Au centre de ce texte, il y a un narrateur. Il s'appelle Moi, M-O-I. Avec un M majuscule. Cette majuscule a toute son importance. Il faudrait dire aussi quelques mots de ce personnage, de ce narrateur. Qui est-il? D'où vient-il?
Ce que j'ai reçu de lui en premier, c'était sa manière de parler. J'entends qui correspond à quelque chose d'assez fébrile, d'assez impatient, parce qu'il est en quête permanente. Et je pense qu'il a comme 2 moteurs qui sont importants. Il y a déjà la quête du désir, en fait, comme un désir qui se reporte un petit peu sur n'importe quel objet. En l'occurrence, la reconnaissance. Donc, il est très avide de reconnaissance. C'est pour ça que ça s'appelle le prix, parce qu'il aimerait désespérément gagner un prix. Donc, quelque chose d'assez narcissique, d'assez ridicule, qui offre peut-être le côté comique du livre. Et puis, à côté de ça, il y a un moteur qui est plus légitime, plus noble. C'est vraiment l'idéal. Il aimerait créer l'œuvre idéale.
Le grand œuvre.
Ouais.
Il a un point de son corps qui est aussi totalement névralgique. C'est le nombril. Il est un nombril à lui tout seul, ce personnage.
Oui, le nombril du personnage est le centre du monde.
Jean-Michel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous avez réalisé une réduction assez drastique du roman.
J'étais obligé.
Pour la lecture de ce soir, il fait à peu près 280 pages et on va essayer de faire rentrer ça dans 40 minutes de lecture. Et vous y êtes-vous pris?
Eh bien, j'ai essayé de préserver, pour moi, ce qui fait beaucoup du charme de ce livre. C'est d'une part l'humour, la comédie, d'autre part l'élan de l'écriture. Donc, on a essayé de ne pas coupacher des petits bouts, mais de garder... Et puis en même temps de raconter une histoire qui ne peut pas être la même que le livre en entier, mais qui a un rapport quand même très étroit, puisque je le dis au risque de déflorer, on verra au début que ce personnage nombriliste est tellement nombriliste qu'il n'entend pas le monde autour de lui. Et il y a toute une première partie comme ça qui parle de ce nombrilisme. Et il y a une seconde partie, parce que ce qu'on n'a pas dit Antoinette, c'est qu'il est marié et qu'il a un enfant, puis un second enfant, ce personnage. Et évidemment, ça change la donne. Il considère cette famille, cet amour qu'il a quand même, je crois, pour ses enfants et sa femme, comme une gêne, quelque chose qui l'entrave. Et au fur et à mesure du roman, il va s'ouvrir à l'altérité, aux autres, disons. Alors, dans le montage que vous allez entendre, il y a une première partie sur le nombrilisme, une deuxième, vous allez peut-être l'identifier, qui est comme une espèce de simulacre d'ouverture à l'altérité, et puis une dernière partie qui est l'accouchement de sa femme. Et là, en général, ça finit par une naissance quand ça se passe bien, et c'est le cas.
C'est donc un texte qui confère à la maïeutique, mais ça, on verra un peu plus tard. Voici donc, après ces quelques préliminaires, en lecture, quelques morceaux choisis, de beaux morceaux tirés du roman d'Antoinette Richner, Le Prix. Le texte sera dit par Raoul Teucher, en dialogue avec le piano de Michel Winch. C'est une réalisation radiophonique de Jean-Michel Meyer.
Soulever mon t-shirt pour m'étudier du nombril. Fleurs saccagées, liserés mauve, tordus, redressés, tordus de nouveau, orifices éclatés aux pétales disjoints, sommairement cousus. Décidément, j'ai refermé la dernière fois tout cet imbroglio à la va-vite. Je ne suis pas celui qu'il faudrait, le soigneux, à qui l'espérance est permise. Voilà pourquoi je ne peux parvenir à des fins honorables et pourquoi mes efforts n'ont rien produit que cette voix inégale sur mon ventre. Entre boudins rosâtres, ourlets froncés et caprices inextricables. Lorsque je quitte la chambre consacrée, je trouve le couloir plongé dans l'obscurité. Passant devant la chambre de Mouflet, je distingue un corps confus, entortillé dans la couette. Mais je n'entre pas. Je veux S. Encore trois pas, je pousse la porte. S est couché en forme de S. Je me glisse tout habillé vers son corps, m'accolant sa colonne. S, j'articule à son oreille. J'ai gagné le prix. Elle se dresse avec un léger retard. Sous le rayon du réverbère, je vois son air troublé, mais pas question de me laisser abattre. J'ai reçu un coup de fil. Je m'excite un peu. J'ai gagné le prix S. Ses lèvres forment quelque chose. Des paroles s'emballent, mais sur ses lèvres mal éclairées, impossible de lire. Je dois lui avouer que je n'entends plus. Je dis qu'à mon avis, c'est la joie. La surprise d'avoir gagné m'a causé un de ces chocs. S allume notre lampe, me dévisage alarmé, puis balbutie à nouveau des bulles de choses. Je n'entends pas. Elle fait pour traduire des gestes pitoyables auxquels j'arrache peu de sens. Elle me prend un instant dans ses bras, me berce de toute sa douceur bouleversée, puis se lève et revient avec un carnet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle griffonne. Un courrier de leur part ? C'est ça ? Alors tu ne me crois pas ? Je demande. À l'avoir hésité, les mots me viennent pour l'accuser. Quelle méchante méfiance, quel affront indigne. La sueur me monte, je pense, S a peut-être vu des choses. La photo de X, par exemple. Mais si elle y a cru, si elle a cru que c'était X, le lauréat, et pas moi, au lieu de croire son homme, je l'attrape par le bras. Quoi, tu crois que je vais te taper ? Te cogner parce que tu es infoutu de me croire quand je te dis, quand je te jure que j'ai gagné le prix. Comme elle fait mine de se protéger, la sueur me monte pour de bon et je l'empoigne. Qu'elle me dise qui, d'entre X et moi, est le vrai lauréat. Je prends ma femme d'amour entre mes doigts et je me mets à serrer. Lorsque j'aurai gagné le prix, tout changera, je me disais, avant la lettre. quand je serai lauréat, la vie. En attendant, je m'interdisais tout ce qui détourne du but. Prêter attention aux sentiments de S, par exemple, ou à ceux de Mouflet. Mais ne mérite repos et jouissance que celui qui triomphe. Et dès lors, comment s'accorder la paix? Comment se l'accorder tant que le prix ne sera pas gagné? Je sers toujours, mais face à elle, c'est moi qui soudain me brise. Je la relâche, lui demandant ce qu'on fait de ces efforts que depuis des années je déploie. Ces efforts réitérés pour poursuivre et développer ma pratique. Des efforts surhumains qu'il conviendrait d'enfin récompenser. À condition d'une once de jugeote, le jury aurait dû le comprendre. Cette fois-ci, le moment était venu de saluer l'ensemble de mon travail. Mon œuvre dans son intégralité. La somme des ropfs produits jusqu'ici par la seule force de l'entêtement. Au lieu de quoi, ce jury d'incapables à la vue courte me transmet une fois de plus son mépris à l'aide d'une foutue lettre. Tu te rends compte? Une foutue circulaire me reléguant au rang de tous les évincés, à la masse. S est restée impassible. Brièvement, elle réfléchit, puis, puisque je n'entends pas, écrit qu'elle m'emmène à l'hôpital. Elle fait mine de s'habiller, mais je la retiens. Pour ce qui est de la surdité, effectivement. Mais il est hors de question que je sorte d'ici quand voitures, bâtiments et piétons ne feront que m'adresser un seul message. Cette année encore, tu n'es pas lauréat. Non. Foutre le pied dehors et aller se soumettre à un nom d'idiot de docteur, à ses questions et se retrouver à lui parler concours et lettres? Non, jamais de la vie. Quoi, tu n'iras pas? Hors de question. Est-ce que la lettre, l'humiliation et le silence des oreilles ne suffisent pas? Je lui dis. Suis-je en état de me faire embêter, tourmenter par-dessus le marché? S m'écoute, les yeux agrandis. Elle sent qu'elle perd du terrain. Elle serre son stylo à croire qu'elle va pondre une très longue tirade. Puis, au bout du compte, pose simplement son matériel sur la table de chevet. Elle éteint la lumière, me tourne le dos, et je sens que, sous la couette, elle ramène ses genoux contre son ventre en un S très serré. C'est samedi, et Mouflet déclare qu'il aimerait aller à la piscine. D'où lui vient pareille idée? Déjà, il a tiré les maillots de bain du sac où nous les tenons mélangés. Il n'est pas question que j'aille me mettre à moitié nu dans un bassin. Si les gens, tous ces gens, voyaient la différence entre mon abdomen et le leur. S vient à moi. « Emmène-le, » dit-elle. « Non, » je dis. Et la contourne, lui échappant. Mais elle me poursuit. Si c'est mon nombril qui m'inquiète, je n'ai qu'à y appliquer un gros pansement waterproof. Ainsi, je ressemblerai tout au plus au Kidam ayant subi une opération dermatologique bénigne et qui profiterait de son après-midi pour accompagner son fils à la piscine. « Fais un effort, » elle ajoute. Bientôt, mon fils attrape ma jambe et s'y agrippe. S me jette deux serviettes de bain et un sac de sport. Mouflet trépigne de joie, serré de près par mon fils qui hurle « Qu'on y va, c'est trop bien, on y va !» Je suis déjà sur le seuil quand je plante des deux jambes. Non et non, je ne me laisserai pas faire. Perdre mon temps à la piscine, quand je devrais m'asseoir sur mon tapis de sculpture et y attaquer mon grand œuvre. J'ai du pain sur la planche. Oui, du gros à sculpter. Si je veux tenir un jour un ropf digne de rivaliser avec X. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Demande S. Je ne peux pas y aller. Comment ça? Mais on n'y verra rien avec le pansement. Je t'ai mis l'emballage dans le sac. Je te dis que je ne peux pas. Emmène-le. Je dois sculpter avoir le calme pour sculpter. Pensez à moi, à ce qui doit se former là. Je ne peux pas m'occuper de moufler maintenant. Tu ne peux pas consacrer une demi-journée à ton fils? Fous-moi la paix, 5 minutes, avec tes noms d'idiotes exigences de chef de famille. Merde! Alors, S m'envoie une volée de mots à la tête. C'est le comble, entendre ça quand elle travaille comme une folle. N'aurait-elle pas le droit, elle aussi, à quelques heures pour faire ce qui lui plaît? Elle s'est mise à crier. Ça souffle fort, ça y est. C'est le vent du sud-ouest, le plus violent. Se projettent des paquets de mousseuses et irrespirables rancœurs. C'est tout son corps qui parle. Profondément noirs et houleux, les flots roulent. Comme si elle ne se sacrifiait pas déjà tant et plus. Qui l'emmène à la petite école, prépare ses repas du soir? Qui le met au lit et l'occupe le week-end? L'air de passer la main dans les cheveux, je pousse discrètement le switch de ma prothèse auditive. Aussitôt, silence réconfortant. Mouflet, lui, reste ballotté. Le pauvre n'a aucun moyen de se couper des mugissements et retient à nouveau, agrippé à mes jambes, les maillots de bain qu'il a coincés contre son ventre comme d'irréductibles témoins d'un ordre familial. Nous restons ainsi, moi debout, notre fils à mes pieds, molesté en tous sens par la houle, mais tenant bon, S nous assaillant. Il semble que ça dure 3 jours et 3 nuits. À travers tout ce qui, dans le couloir, est devenu brouillard de S, je cherche à distinguer les traits de celle que j'aime, quand je remarque ce quelque chose de vif, scintillant méchamment sur la crête des phrases. C'est un incroyable mot, vraiment insupportable, traître comme une lame de couteau émergeant de l'écume. Éperonné, je rallume mon appareil. A-t-elle employé pour de bon ce mot que j'ai entreaperçu? Cette fois, S tire ouvertement le mot des profondeurs où elle l'aiguisait. C'est un adjectif et ça dit « égoïste ». Non, d'idiot, elle l'a dit. Alors comme ça, je serais égoïste. Moi, c'est la meilleure. Moi, je serais égoïste. Quand j'essaie justement d'accomplir un ropf voué à combler l'humanité entière. Nuit et jour, je cherche, m'efforçant de comprendre comment font les grands sculpteurs et pourquoi je ne peux réduire cette différence entre la grande sculpture et la mienne, la réduire une bonne fois à zéro. Oui, sans relâche, je réfléchis à la meilleure manière d'accomplir ce ropf majeur. Et je demande à S si elle se rend compte que je sacrifie tout pour l'accomplir. Réalise-t-elle que je suis peut-être à 2 doigts de le trouver? Parfaitement. En ce moment même où elle me demande d'aller avec Mouflet à la piscine, sous je ne sais quel motif de rôle parental. Est-ce qu'elle se rend compte? Je demande la voix aiguë à m'en dérégler l'appareil. Est-ce qu'elle réalise que, ce faisant, elle est peut-être en train de léser l'humanité tout entière? Oui, de la priver du grand ropf auquel l'humanité, enfin, quand on y pense, a tout de même droit, et que je suis seul à pouvoir accomplir. Comme elle n'a pas l'air de réaliser totalement, je lui demande si c'est peut-être un doute qu'elle aurait quant à mes possibilités, mes facultés de sculpteur, et en définitive, mon talent. Elle tourne les talons pour gagner la penderie. Elle enfile son manteau, rajuste sa chevelure avec une rage froide, et franchit le seuil. Claquement de porte. Crénom d'idiot, elle nous plante là, et c'est moi l'égoïste. Quel mot de pute, me dis-je encore, aveuglé de colère. Papa?
Quoi?
Pourquoi tu dois gagner le prix? Tu vas me foutre la paix, oui. Je hurle et décampe. Tournant dans la chambre consacrée comme à l'intérieur d'une cage, je m'arrache les cheveux. De toute façon, maintenant, je ne peux plus sculpter. Dans l'état où je suis, impossible. Un égoïste, moi ! C'est mal me connaître. Franchement, plus j'y pense et plus le mot me semble calomnieux. Car d'abord, je suis parfaitement capable de m'intéresser aux autres et à leurs petites activités, leurs petits problèmes, oui, parfaitement capable de m'intéresser à toutes ces futilités qui font la vie des autres. Alors, non, non, et Renan, une infamie pareille, S n'en avait pas le droit. Je vais te montrer, moi. Le type à l'écoute, là, le père aimant que je suis en réalité. Et je dis à S de bien regarder son homme, elle va voir ce qu'elle va voir. Me revoilà dans le couloir d'où j'aperçois Mouflet jouant à un truc, là, un machin en solitaire, avec ses petites voitures et les bruits qui vont avec. Me faisant tout doux, je toque à la porte entrouverte. Je peux entrer ? Comme il ne répond pas, je vais jusqu'à lui. J'ai une idée. On va jouer tous les deux. Ça marche ? Tu viens ? Viens donc jouer. Tu m'entends ? Mouflet exprime maintenant de l'hostilité. C'était pas grave, me dis-je avec mansuétude. Voilà ce qu'on va faire. Je vais t'aider à comprendre que mon jeu est plus intéressant que le tien. D'accord ? Et j'évoque un hôpital. On était aux urgences, j'ai reçu des blessures par balles et je me vide de mon sang. J'ai besoin très vite d'un paradrap par là-dessus. Je prononce à sa manière pour gagner ses faveurs, mais Mouflet fait non de la tête. Bordel. Ce n'est quand même pas un mouflet dont les années se comptent d'une seule main qui va me tenir tête. Je l'attrape sous les aisselles, l'élevant dans les airs. Qui est le plus fort, hein ? Qui est le plus fort ? Et je le plante sur la moquette, le maintenant d'une main et lui collant de l'autre des bouts de pansement. Pourvu que ça prenne. Mais Mouflet, au lieu de s'amuser, me dit que d'abord on dit sparadrap et non paradrap. Puis il crie de lâcher. Il se débat pour retourner à ses voitures. Je ne peux quand même pas le ligoter avec du pansement adhésif. Si tu n'as pas l'intelligence de profiter du père pendant qu'il est présent, aimant et plein d'imagination, je grogne dans le fort intérieur à l'encontre de ce petit con de Mouflet qui est pourtant mon fils. Mais tant pis pour toi. Au salon, je m'effondre sur le canapé, la tête entre les mains. Rattrapé par l'image de Mouflet roulé sur son matelas, doigt enfoncé dans le mou de sa licorne. Cette licorne jaune et rouge, qu'il n'y a pas si longtemps, il lui fallait encore emmener partout. Oui, S a raison. Je suis un égoïste. Oui, un sale égoïste. Doublé d'un pauvre type qui n'a servi à rien avec ses deux sculptures et demie tant bien que mal produites à ce jour. À rien ni à personne. Mais c'est impossible. Est-ce que je peux être un égoïste fondamental ? Voyons. Suis-je encore capable de ressentir, je ne sais pas moi, de la compassion par exemple ? Il faut que je sache si oui ou non je suis capable d'empathie. Il le faut absolument et sur le champ. Mais à cette heure tardive, où trouver le vrai, le pur malheur en barre ? C'est bien sûr, me dis-je, illuminé soudain. Je vais écouter la chaîne de cœur. Ça sera l'idéal pour passer un test. Et ni une ni deux, j'allume la radio, tombant justement sur le début d'un appel. « Allô, bonsoir, je m'appelle Altero. Le modérateur salue, demande où habite l'homme qui nous appelle. Altero est d'un pays en guerre. Oui, Altero a connu le sang. Il raconte qu'il a dû venir chez nous. Puis Altero parle de sa fille. Il vide son sac avec pas mal de dignité. Altero raconte courageusement. Il l'a laissé chez lui au moment de partir. Il n'a pas pu l'emmener. Il a pour cela des raisons de guerre qui semblent tenir debout. En tout cas, on est d'accord pour lui pardonner. Mais la fille, elle, ne pardonne pas. Non, dit Altero. Et un instant, c'est comme si on frisait le sanglot. Maintenant que la guerre est passée et que les retrouvailles seraient possibles, enfin seraient souhaitables, représenteraient ce dont Altero, en tant que père, aurait le plus besoin. La fille crache sur les retrouvailles. Merde alors. Cet homme souffre parce que sa mouflette le rejette, me dis-je. Alors je fais de gros efforts pour me mettre à sa place. Alors, je dois essayer. C'est le seul moyen d'atteindre la compassion. Je fais donc tout mon possible pour m'imaginer la situation. Voilà, je me concentre. Mais je dois bien l'avouer, je peine. Car si pour m'aider, je me représente la perspective de Mouflet devenu grand, de Mouflet faisant, comme qui dirait, sa vie, bref, de Mouflet absent, eh bien, au lieu de percevoir la souffrance d'Altero, je ne vois que mon bonheur de jouir enfin de belles matinées bien pleines, gorgées d'heures libres et exploitables pour la sculpture. Et autrement dit, on dirait bien que je conçois une fois de plus les choses par le centre de l'intérêt personnel. Oui, je suis donc véritablement un égoïste fondamental. Mais ça ne se passera pas comme ça. Et résolu, très en colère contre moi-même, je prends le téléphone. Quand le standardiste annonce la chaîne de cœur et me demande pourquoi j'appelle, je suis, enfin, brièvement, tenté de me plaindre. Je suis un demi-fou que l'ambition de devenir sculpteur torture intimement depuis des années. Mais heureusement, je me retiens de justesse. Et je dis que j'ai entendu le témoignage d'Altero qui m'a beaucoup touché. Je voudrais apporter, non une réponse, mais mon soutien en retour. Le standardiste est OK. Dans quelques secondes, ce sera à moi. Il y a une sorte de décompte et tout à coup, j'entends la voix double du modérateur un peu décalée du téléphone à l'antenne. Il me demande qui je suis, où j'habite. Je réponds, puis je dis que je voudrais apporter tout mon soutien à Altero, dont le témoignage m'a profondément ému. Est-ce que votre situation personnelle comporte des similitudes avec celle d'Altero ? Non, mais je suis touché, profondément. Altero, je m'entends dire avec un tremblement de corde, vous n'êtes pas seul. Ce soir, nous avons entendu vos souffrances et même s'il ne nous appartient pas de juger des agissements de votre fille, nous partageons votre peine. Permettez-moi de vous envoyer toute mon énergie et mes bonnes pensées. Oui, mes pensées constructives pour que soit possible la reprise du dialogue. Merci, dit sobrement le modérateur. Je remercie, salue, raccroche et reste dans le canapé. Stupéfait par mon geste. Suis-je encore un égoïste ? Hein ? Qui peut encore le prétendre ? M'est avis qu'au contraire, je suis le type le plus solidaire, allez, le plus altruiste que je connaisse.
Thank you. Mais dis donc une maison,
me disent les sages-femmes.
Mettez au moins un toit sur votre tête, sinon vous ne tiendrez pas.
S est démontée, c'est survie en elle et tout autour d'elle. Et l'univers ne contient plus rien d'autre que S en souffrance. Elle ne me regarde pas et sa force, la masse de ses os mugissantes a quelque chose non seulement d'effrayant, mais d'absent aussi. Elle me balaie à croire qu'elle ne me voit plus du tout et qu'elle s'est entièrement enroulée autour de son propre centre et de ses forces délirantes. Le vent me soulève par moments et si je ne me tenais pas aux sages-femmes, il m'aurait déjà emporté. Mais S ne le fait pas exprès. Elle laisse simplement se déchaîner les éléments dans leur monstrueuse violence. Je suis pétrifié. Les sages-femmes sont tout ce que j'ai trouvé pour m'accrocher. Je crois que je les gêne. Arrive un moment où elle m'enfile de force 4 murs et un toit.
Vous n'enfilez pas de maison, vous aussi ?
Je demande bêtement.
Ne vous inquiétez pas pour nous,
disent les sages-femmes. Elles portent des cirés jaunes avec des capuchons. Et en dessous, des pantalons jaunes en toile cirée également. L'une d'elles sourit, l'air de dire « On connaît notre métier tout de même ». Et fermement, elle détache mes doigts agrippés, fait signe à sa collègue, et ni une ni deux, elle me déplace de quelques mètres, passe mes pieds dans des sangles, qu'elle visse au sol pour que je ne les embête plus, dresse rapidement 4 cloisons chapeautées d'un toit. Ma maison est fixée. J'ai dans ma face ouest une fenêtre d'où je peux suivre les opérations. Je les vois ranger leurs visseuses. Elles vont et viennent avec des lampes tempêtes, le sourire aux lèvres lorsqu'elles me passent devant. À croire que ça les amuse de me voir trembler et imaginer ma dernière heure arriver. J'ai l'impression qu'aucune femme au monde ne peut atteindre la puissance de S. Mais elles ne semblent pas impressionnées. Peut-être est-ce courant, banal pour elles, une pareille tempête. Alors que pour moi, c'est tout simplement la plus grande force jamais déployée dans l'histoire des forces. D'une certaine manière, la plus hostile à mon égard, mais aussi la plus belle. Et même le jour où Mouflet nous est venu, je n'ai pas le souvenir que S se soit ainsi déchaîné. Mais naturellement, avec le temps, la frayeur faiblit. À peine le soleil revient que l'on se met à évoquer l'aventure avec aux lèvres le sourire des sages-femmes, l'air de dire « Je n'ai pas vraiment eu peur, je savais que tout finirait bien ». Comme l'une des sages-femmes passe près de moi, je demande quelle peut bien être la vitesse des dernières rafales. Elle s'arrête. Son ciré dégouline. Sur son visage, il n'y a que de l'embrun collé, la pointe trempée d'un nez et 2 feux de brouillard. Elle me demande de répéter. Elle n'a rien entendu avec ce vent qui emporte nos pauvres paroles. Je redemande. « À quelle vitesse vont les plus grosses rafales maintenant ?» Elle consulte son savoir et répond. « Environ 80 km/h !» « Ah bon ?» je dis. Ce chiffre ne me sert à rien, mais me soulage quand même. Et je dis encore que dans ce cas... «
On y est bientôt, n'est-ce pas ? On n'en est plus très loin !»
Car plus forte que ça, non. Il me semble que les rafales ne pourront pas raisonnablement devenir. La sage-femme me regarde. Elle éclate de rire. Les rafales monteront jusqu'à 110, 120, probablement 140, me dit-elle avant de s'éloigner en riant et d'aller rapporter mes propos à la deuxième sage-femme qui, elle aussi, s'esclaffe. Mais ça leur rend sans doute le travail moins pénible. Se foutre de ma gueule fait passer le temps plus joyeusement pour elles. Elles ont disparu dans le jus. C'est venu l'immersion intégrale dans le présent et la peur, dans la nuit de la plus forte, de la plus simple peur qui soit. La journée tire à sa fin. Il y a maintenant une accalmie, le vent tombe comme il est venu. La pluie cesse. Il reste au-dessus de nous des nuages très lourds, mais je peux ouvrir la porte et j'interroge les sages-femmes du regard.
« Venez !» me disent-elles. « Il faut en profiter pour aller encourager votre femme !»
S semble très loin, mais les sages-femmes connaissent le chemin. Elles savent par cœur où passer sur l'estran. Ça ne risque rien. Et comme j'hésite, elle consulte des instruments auxquels je ne comprends rien pour m'en convaincre. Le coefficient
est si important, si exceptionnel, que la vitalité a reculé à des kilomètres. Nous avons largement assez de temps pour faire l'aller-retour. Allons, allons, me disent les sages-femmes. Ne vous faites pas plus chochotte que vous ne l'êtes. Et elles se tapent mutuellement du coude. Mais des chochottes en 20 ans de métier, on en aura vu, mais des comme lui... donné de vivre aux côtés de S. Je dois bien dire que celle-ci la pire. L'odeur de Goémon est âcre, à la fois puissamment iodée et faisandée. Tout bruisse d'humidité mortelle comme si des tonnes de mollusques succombaient à l'asphyxie. Je n'ai pas tant peur du reflux, peur d'être surpris par la vie montante que de mettre le pied dans le Goémon. Nous devons traverser une pleine zone et je me méfie des choses camouflées. Je risque de tomber sur des crustacés, du verre brisé, des pierres qui coupent, ou des choses gluantes et molles dont j'ignore jusqu'au nom. Rien que ce bruit de bulles qui remontent pour éclater en traîtrise. Je n'ai pas de grosses bottes, comme les professionnels, mais de pauvres chaussures de ville. À chaque pas, je m'enfonce et les splotch me terrifient de dégoût. Crac ! Font mes semelles et je tente de surmonter ma terreur. Si au moins je voyais ce que je broie, nous approchons de S, qui devient impossible à embrasser d'un seul regard. Falaise des reins, hanches, qui se dressent avec aux alentours un mince filet de brume. C'est de tout près seulement que je vois les marques de souffrance. Je lui prends la main. S, au milieu de la tourmente, ne contrôle rien de ce qui nous arrive. Alors, j'ai pitié d'elle, profondément. Je me sens inutile. Ses flancs sont creusés par la respiration. Une brusque déchirure dans le ciel tombe sur nous les rayons du couchant. Des bouillons secs se forment dans ma gorge et je laisse sortir de drôles de hoquets. Il y a de la fatigue nerveuse. Voilà des heures que personne n'a dormi. Les sages-femmes qui écopent aux alentours échange un coup de coude mi-amusé, mi-agacé. Il ne manquait plus que cette chochotte-là se mette à pleurer. La première laisse tomber son seau et dit à l'autre qu'elle fumerait bien une clope. « D'accord, dit l'autre, bonne idée. Sonnez donc, cas de problème. » Et les voilà qui sortent. Le soleil rouge se fait écraser sur l'horizon comme un morceau de métal chaud sur l'enclume. Ça moutonne de rose et de cuivre. J'ai à la fois envie d'être protégé de tout cela et d'y être totalement incorporé. Sur les joues empourprées de S et ses yeux passés en contre-jour, je vois qu'elle est à bout de force, épuisée, découragée et pleine de doutes. Je l'embrasse très doucement. Comme si je possédais un pouvoir sur la tournure des épreuves encore à venir, je souffle quelque idiotie de type « ça va aller ». Qui suffit à lui arracher un essai de sourire. Oui, un poudroiement d'or sur les flaques environnantes. Et je sais que je pourrais attendre longtemps avant de revoir Paris féerie. Malgré l'odeur, mon âme s'enchante. Le soleil est de braise, filament, ultime rougeoiement. Et voilà qu'il disparaît en nous léguant à peine quelques lueurs safran. La nuit peut bondir sur ces orphelins. Repliez-vous ! Crient les sages-femmes. Ce coup-ci, ça va barder ! Mais je ne veux pas me replier. Je resterai avec S, près de sa tête, tout au nord-ouest. La sage-femme ne m'entend pas. Si fort le vent est revenu, on dirait que tout S va craquer. Ne restez pas là ! Me hurle encore la sage-femme qui doit se mettre en route pour le sud. Repliez-vous, c'est trop dangereux ! Mais je ne bouge pas. Je suis déjà trempé. Les lames déferlent et à chaque lame, je peux partir pour toujours. Mais je tiendrai, je resterai près de la tête de S, bien cramponné dans les rochers et ses cheveux qui s'entortillent battent le vent et me fouettent. Alors, la sage-femme hausse les épaules et m'abandonne, se hâtant vers le sud, où il lui faudra élargir de son mieux le delta de S pour aider le passage. La nuit s'épaissit et je vois rapetisser le ciré jaune, tandis qu'il court sur la grève. Le vent est furieux, il hurle que malgré la bonne volonté et le savoir-faire des sages-femmes, les éléments prendront le dessus sur toute intention humaine. Et j'ai peur. Mais moins que dans la maison avant l'accalmie. Pour sa part, S ne peut plus connaître la peur. Elle a franchi l'étape des défenses. Tandis que sa matière se fait pure souffrance dans le vent, les lames qui l'éprouvent l'usent et l'usent et l'usent. Conscience qui lâche. Est-ce que je ne préférerais pas prendre sa place? Je reçois des pierres qui volent. Je finirai tout couvert de bleu. Assommé peut-être. Il n'en pleut de partout. L'eau les porte. Le vent les porte. Lourdes pierres tournoyantes. L'eau et le vent, c'est pareil. Je ne sais pas comment S a réussi à en venir là, mais sa violence non seulement fait voler les pierres, mais abolit encore toute distinction entre l'eau, la contenance du temps et l'air. Je marque bout. Et s'arc-bout. Une courte trêve et se reprend. Les gémissements de S se confondent avec les minutes sous pierre, au vent. Une courte trêve. Puis, soudainement, ça fuse dans mon oreille. J'entends ces cris. Ceux du nouveau corps. Je ne comprends pas tout de suite, puis je le vois gigoter dans l'espace. Les sages-femmes s'affairent. L'une tient et remonte au nord-ouest le poisseux paquet de membres surmonté d'une tête. L'autre flatte les flancs de ma femme, lui dit de ne pas se laisser aller parce qu'il faut encore expulser la pelote. Celle qui tient le petit me le montre. Elle m'a demandé si je voulais le voir et n'a pas attendu ma réponse. Elle l'a mis dans mes bras, qui sont par ailleurs les bras de S. Alors je comprends ce qui est changé, car mon appareil acoustique gît à 2 mètres. Sur le sol récuré avec une raclette par l'une des sages-femmes. Et pourtant, j'entends les cris du nouveau corps. Oui. Je veux le dire à S. Je suis guéri. S. Guéri de Louis. Mais apparemment, elle vit d'autres priorités. Les tremblements, les giclées et les spasmes l'ont reprise. C'est l'expulsion de la pelote qui arrive, toute prise dans les muqueuses. Un vraisemblable nœud de caoutchouc en lanière gluante. À vrai dire, un ensemble assez peu ragoûtant. Regardez-moi ça, quelle vitalité de racine, dit la sage-femme en soupesant. Elle semble à la fête. Toutes deux ont donné et sont fatiguées et bien contentes d'en avoir fini pour aujourd'hui. Vous voulez la conserver ? J'ai laissé le nouveau petit corps dans les bras de S. Histoire de récupérer mon appareil acoustique, je me suis mis à 4 pattes. Avec toute cette flotte partout et ces déjections, je le trouve dans un tel état que je préfère lui dire adieu. Une si belle pelote, dit encore la sage-femme. De son côté, le remouflet vagit. Je l'entends crier, dis-je à S. Mais elle est bien trop sonnée pour comprendre de quoi je lui parle et se soucie comme d'une guingue de ma guérison acoustique. Quant aux sages-femmes, elles passent un genre de serpillière sur le ventre écroulé, satisfaites du travail bien fait. Tout semble maintenant rentrer dans l'ordre. Oui, tout le monde à sa place, remouflet, accosté dans les mains, les bras, les cheveux et les seins de S. Les sages-femmes affairées pour tout remettre en état. Et moi, l'homme à Louis subitement réparé, qui fait, avec ma femme, des bras d'accueil pour notre nouveau-né.
Eh bien, après ça, on se sent tout moite. Quelle aventure, messieurs. Raoul Teuchère disait quelques fragments du premier roman publié chez Buchet-Chastel d'Antoinette Richner, Le Prix. Le comédien dialoguait avec verve et passion avec le piano de Michel Vinch. Le choix des passages et la réalisation radiophonique étaient signés Jean-Michel Meyer. La prise de son signait Mathieu Lutolf et Bastien Meucli. Et tout cela se passe sur la place Arlo à Lausanne dans le cadre du Festival de la Cité avec lequel Espace 2 s'est une fois de plus associé. Antoinette Richner, vous aussi vous êtes un peu humide après cette...
C'est une très grande tension en tout cas.
Une tension, expliquez-nous pourquoi.
C'est un mélange de sentiments, que ce soit quand on écoute de la prose dite comme ça ou quand une de mes pièces de théâtre est jouée. C'est le mélange d'une sorte de gêne profonde parce que je me sens comme prise en flagrant délit de ce que j'ai écrit devant tout le monde.
Ah oui, là, on ne peut rien dissimuler.
Et en même temps, c'est une immense jubilation parce que la chose existe pleinement, qu'elle se réalise pleinement.
Alors c'est intéressant que vous disiez ça parce qu'en écoutant la performance de Raoul Teuchère et Michel Vinch, j'ai eu l'impression que tous deux ont donné une bonne idée de la matérialité de votre texte. Et je sais que cette idée de la matérialité et du texte et de l'oralité, c'est quelque chose qui vous préoccupe.
Oui, il y a un lien aussi entre le fait que ce soit l'histoire d'un sculpteur qui est aux prises avec la matière et l'écriture elle-même.
Donc finalement, c'est ROPF, c'est l'équivalent d'un livre, du grand œuvre auquel vous vous attelez soir après soir, à votre table d'écriture en solitaire.
C'est en tout cas quelque chose qui est d'abord invisible et qui doit sortir de soi pour être transmissible, en fait.
Cette oralité, Antoinette Richner, vous l'avez travaillée pendant votre phase d'écriture. Je vous imagine tout en haut de votre phare, là-haut, en Bretagne. Enfin, ce n'était pas tout à fait ça, mais on imagine quand même qu'il y a... que vous ne pouviez pas ne pas dire à haute voix ce texte qui semble écrit justement pour l'oralité. Et on rappelle que vous avez travaillé pour le théâtre, vous êtes l'auteur de plusieurs textes pour la scène.
En tout cas, la rythmique, le fait que ce soit frénétique comme ça, que ce soit rapide, que ce soit parfois léger aussi, mais toujours en fugue, en fuite, ça c'était quelque chose que j'avais à l'oreille en permanence. Ouais.
Je vous ai observé pendant la représentation de ce soir et je vous ai senti extrêmement attentive d'une part et peut-être aussi prise dans ces vagues d'émotions qu'interprètent magnifiquement Raoul Teuchère et le musicien Michel Vinch. Il faut dire aussi une chose à l'attention de ceux qui sont présents aujourd'hui sur la place Arlo et aussi des auditeurs qui nous écoutent. C'est le fait que ce n'est pas la première fois que vous avez entendu ce texte dit par une autre voix que la vôtre lors du vernissage, parce qu'aujourd'hui on vernit les livres, c'est comme les expositions au mois de janvier. Vous l'avez entendu par une autre voix, c'est celle de Joël Maillard, un autre comédien. Et j'ai l'impression, pour avoir entendu Joël Maillard et maintenant Raoul Teuchère, que c'est deux définitions très différentes d'un même texte, deux sculptures différentes à partir d'un même matériau.
Tant mieux, c'est bon signe, je pense.
Oui, donc comme quoi cette matière est malléable.
Oui, elle est traversée chaque fois. Ce personnage existait pleinement et il était traversé par une toute autre personnalité. Et donc ça veut dire qu'il est, il a une ouverture, il est perméable. On peut entrer dedans, on peut l'habiter.
Jean-Michel, je me tourne vers vous. Êtes-vous content de votre ROPF radiophonique?
Si je ne l'étais pas, je ne vous le dirais pas, mais ça tombe bien. Je suis vraiment... Et j'ai trouvé ça absolument formidable. Je ne veux pas vous imposer à personne mon enthousiasme.
Mais on l'a entendu pendant la représentation, vous étiez l'un des seuls à rire.
Non, je n'étais pas le seul. C'est pas vrai, j'ai entendu les autres rire et ça m'a fait très très plaisir. Non, je suis très, très ému, très touché. C'est un texte qui est difficile à dire. Très difficile. Il y a plusieurs instances. Il y a des moments où on raconte, il y a des moments de soliloque, il y a des moments de dialogue. Je trouve que c'est un travail et dans le détail, et dans l'élan, et dans l'accord. Moi, je sors très, très heureux de ce que je viens d'entendre.
Eh bien, si on entrait dans l'atelier d'écriture, pas d'écriture, plutôt d'interprétation, dans vos répétitions, comment vous y êtes-vous pris avec le comédien et le musicien? Comment ça se construit? Comment ça se sculpte une performance comme celle-ci?
On s'est vu avec Raoul. Raoul a lu, a déchiffré, on a parlé, on s'est vu quelques fois ensemble avant de se voir avec Michel. Et puis les choses se sont faites dans le dialogue. Il y a eu quelques répétitions avec Michel et voilà, les choses se font. Et il y a vraiment une maturation extraordinaire pour moi de la progression de Raoul. C'est normal, c'est ça le travail sur un texte. Mais entre la première lecture et ce qu'on vient d'entendre, c'est formidable.
Alors Raoul Teixeira, je profite du fait que vous êtes à mes côtés. Comment est-ce qu'on aborde ? D'abord, je vous sens un peu lessivé par ce que vous venez de dire et de vivre. Comment est-ce qu'on aborde un texte aussi complexe dans son écriture ? Parce que faut le préciser aussi à l'égard de ceux qui nous écoutent et nous entendent, tout cela est plus ou moins dans un même flot d'écriture. Il n'y a pas de retour à la ligne lorsqu'il y a des répliques qui s'inscrivent des personnages. Donc il faut être en permanence attentif à qui dit quoi entre la narration et les répliques d'autres personnages.
Aborder un auteur, c'est toujours aborder une nouvelle langue étrangère, chaque fois, et puis il faut y être perméable, se laisser imprégner par son rythme, ses couleurs. C'est ça le travail, de se laisser faire, de laisser résonner comment ça nous parle à l'intérieur, et puis il y a plein d'indications en même temps dans la partition du texte. Il y a des choix typographiques qui sont faits, il y a des choses comme ça, il y a des pistes quand même assez claires. Après, ça résonne différemment pour l'un ou pour l'autre, mais c'est un travail passionnant.
Et puis quand je parlais de matérialité, je crois que je ne vais pas tendre la parole à Michel Vinch parce qu'il n'aime pas trop s'exprimer au micro, mais quand je parlais de matérialité...
Ah bon ? Michel. Viens ici.
Non, mais je...
Juste pour démentir, Jean-Marie, viens ici.
Bon, voilà. Ouais, ce qui m'a impressionné, Michel Vinch, c'est le fait que, quand on parle de matérialité, justement, vous avez appréhendé votre piano dans toute sa matérialité, parce qu'on l'a entendu, ce piano n'a pas qu'un clavier, il a aussi un cadre avec des cordes, et vous avez joué avec toutes les cordes de ce piano, quelle que soit la face nord, la face sud, et le haut et le bas.
Absolument.
Vous aviez raison, Jean-Marie. Il n'aime pas ça.
Où est la question ?
J'aurais juste adoré que vous développiez un peu ma perche que je vous tendais, c'est tout. Et que vous ne me donniez pas raison.
Ben voilà, il y a quelqu'un qui a donné raison. Non, mais voilà. Je suis en train de donner totalement raison. Non, mais ce qui est important surtout, c'est de dire que l'essentiel du boulot, c'est l'écoute. Voilà. C'est-à-dire d'être à l'écoute et du texte, du comédien, du moment présent, du piano dans toutes ses faces. Et puis, si je me rends disponible totalement, on arrive à raconter une histoire ensemble.
Qu'est-ce que ça implique pour vous, Jean-Michel ? Je crois que vous vouliez poser une question à Michel.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce texte-là, il y a aussi, étant donné les instances différentes à l'intérieur du texte, justement des moments de soliloque, par exemple, qui reviennent, qui sont marqués typographiquement dans le livre, pour ceux qui le liront ou qui l'ont lu, il y a des paragraphes qui sont en retrait, ce qui indique le soliloque. Alors on a aussi essayé de trouver musicalement des espèces de codes avec des choses qui reviennent dans ces moments qui sont des moments de soliloque. Donc la musique, elle a à la fois la fonction, comme l'interprétation du comédien, d'éclairer au maximum le texte. Et puis il y a ce que vient de dire Michel, bien sûr, qui est le plus important, l'écoute.
Cette typographie, Antoinette Richner, elle est destinée aux comédiens, aux lecteurs, aux lecteurs.
Le décalage, par exemple, comme c'est en premier lieu un livre, donc en relation intime entre une personne qui lit et le récit, et moi qui suis derrière, c'était l'idée de chaque fois créer ce décalage qui est à la fois littéral, parce qu'il est, disons, au propre, parce qu'il est visible par rapport à la marge, par rapport au corps principal, et en même temps c'est un décalage entre le héros et tout ce qui fait la vie, tout ce qui fait les autres, tout ce qui fait la réalité.
Eh bien, concrètement, non, mais juste pour dire, parce que c'est assez étrange, quand on lit le livre, on voit ces passages, on voit ces passages qui sont en retrait, et c'est une énigme aussi pour le lecteur. Pourquoi ces passages sont-ils en retrait ? Et on cherche ça en même temps qu'on lit.
Et peut-être que vous avez résolu une partie de l'énigme ce soir en travaillant la matérialité de ce texte.
En tout cas, on l'a cherché avec plaisir.
Merci, Antoinette Richner, de nous avoir offert
ce
moment.
Merci,
on rappelle que le prix apparu chez Buchet-Chastel dans la joliment nommée collection Qui vive, et c'est un livre, un premier roman qui vous a déjà valu un prix, le prix Michel Dantan. Un deuxième remouflé est en cours.
Il prendra pas la forme d'un roman, je pense, le prochain mouflé.
Jean-Michel, c'est à vous de conclure. Demain, toute autre matérialité littéraire, tout autre univers.
Oui, demain, nous accueillerons Anne-Sophie Subilia, qui est avec nous ce soir également, assise sur les gradins de cette place Arlot. Et un texte qu'elle a écrit spécialement pour nous, qui est intitulé Le CEP, et qui sera interprété par Roland Vouillot, avec Sarah Oswald au violoncelle.
Merci à tous, auditeurs, spectateurs, d'avoir été fidèles à notre rendez-vous estival. On se retrouve donc demain après les infos de 19h. Merci à tous ceux aussi qui ont rendu possible cette série de soirées littéraires. Madeleine Techer, Nicolas Rocha, Bastien Meucli et Mathieu Lutolf. Dans quelques instants, l'été des festivals. Daniel Rebella, il est 20h sur Espace 2.